Bonjour à tous. J'aimerais peut-être mieux vous voir tous plus près, mais ça ferait une salle assez vide. Alors, ce sont les vacances. On est content de partir, content de revenir. On a chanté tout à l'heure « Ô céleste Père » et le refrain dit « Que ton règne vienne ». Je trouvais le refrain un peu mou. Que ton règne vienne. C'est vrai que nous avons tant de choses qui nous préoccupent, tant de choses qui nous occupent dans la vie, nos responsabilités, les choses que nous devons programmer. Et peut-être aussi dans l'Église, il y a ce tourbillon de choses qu'il faut assumer, prévoir. C'est dans la vie personnelle comme dans la vie communautaire une constante. Hier soir, en cherchant un chant pour la clôture de ce culte, après le message, j'ai échangé avec Pierre et puis il me dit « Mais c'est quoi ton message ? C'est quel thème ?» Alors, il semble assez confus. Et je dis « Bon, c'est la relation au monde, notre relation au monde. » Et j'ai sorti le titre d'un film, « Le monde perdu ». Ça ne parlera pas de dinosaures ce matin, mais le monde qui nous entoure est un monde perdu. Et il est clair que les réalités du monde n'ont pas changé depuis le début de cet été, le début peut-être de nos vacances, et quand nous sommes revenus, les choses n'étaient pas plus enthousiasmantes peut-être que quand nous sommes partis. Il semble qu'une approche globale nous montre que, pour l'Europe en tout cas, nous sortions d'une période de relative insouciance, issue de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Le New Deal, les accords de Bretton Woods, plan financier, tout ça a bien changé depuis. Et pas vraiment dans le bon sens. Les jeunes aussi s'interrogent sur leur avenir. D'ailleurs, l'un d'entre eux me demandait il y a quelque temps si je pensais qu'un service militaire serait réinstauré. Je n'en sais trop rien, mais des clignotants se mettent en place, ici et là, pour une nouvelle forme d'engagement. Peut-être que ce jeune se voyait déjà à la frontière lituanienne ou estonienne en train de surveiller les frontières de l'OTAN. Sommes-nous dans les temps difficiles annoncés ? Bien des contrées connaissent des temps déjà très difficiles, sans parler des contextes de persécution des chrétiens qui prennent de l'ampleur. On sent une vraie fébrilité au plan des rapports économiques et commerciaux et une situation fragile au plan de la défense face à une menace diffuse en Europe. On s'arme comme on ne s'est jamais armé. La technique, que ce soit les drones et bien d'autres choses, mais bien d'autres matériels bien plus lourds et techniquement très avancés, sont en plein boom de développement. Ce n'est pas pour fêter Noël, manifestement. Nous voyons un Israël pris au piège à Gaza, avec tout ce que cela entraîne comme opprobre, conséquence des questions humanitaires. Cela pourrait d'ailleurs nous coûter une crise gouvernementale, et ça ne serait pas avantageux pour notre pays. Et toutefois, en Syrie, des chrétiens sont tués comme des druzes, et c'est moins porteur au plan médiatique que la question palestinienne. Notre président d'association a écrit un article tout récemment sur ce sujet des chrétiens qui meurent sans que personne au plan médiatique n'en fasse grand état. Porte ouverte indique, et ça date d'il y a un jour, que les chrétiens d'Orient sont prêts de disparaître et qu'ils ne représentent plus que 1% de la population, victime de plusieurs formes de persécution, comme peut-être d'autres derrière le rideau de fer à l'Est ont pu connaître comme situation d'exclusion parce qu'ils professaient la foi chrétienne. Bien des chrétiens aussi en Orient sont en train de cacher leur foi pour éviter d'être tués. Qu'en sera-t-il de l'Église occidentale dans le futur? J'ai ajouté ce matin un passage parce que j'ai été chercher du côté de Florent Varac pour ce qui concerne la tribulation, et ce n'est pas le thème de ce matin, mais Florent Varac n'est pas un amillénariste, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que nous sommes déjà dans le millénium, mais il pense que le millénium va venir, que le Seigneur, quand le Seigneur reviendra, mais qu'avant cela, il n'est pas le seul à penser cela. Soyez-en rassurés. Il cite notamment un passage et les paroles de Jésus. Et j'ai ajouté ce passage ce matin, chez moi. Jésus répondit, et c'est en Luc 21, et vous lirez peut-être tout ce passage, Luc 21, verset 8, où Jésus répond à ses disciples, bien sûr, il y aura la destruction du temple en l'an 70. Mais Jésus leur dit au verset 6 qu'il ne restera pas pierre sur pierre et ce que vous voyez, tout sera détruit. Ensuite, au verset 7, les disciples demandent à Jésus, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Et Jésus répondit au verset 8, et c'est une assez longue portion de verset, mais ce n'est pas inutile, je ne pense pas que vous faites de Luc 21 votre lecture quotidienne. Alors Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. » Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Jésus ne parle pas seulement de l'an 70. Il parle dans une perspective beaucoup plus éloignée. Et il y a dans le passage des éléments qui permettent de dire cela. Et puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. On dirait comme les Britannique, so what, c'est arrivé souvent dans l'histoire. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines, et il y en a eu dans le monde, dans l'histoire, depuis 2000 ans. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Cette persécution, si elle s'accroît aujourd'hui dans le monde, a été très vive aussi dans les années qui nous ont précédées, les siècles. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Ça vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. et vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. » Ceci s'est passé même avec les nazis en Allemagne, où des enfants trahissaient leurs parents. Ce ne concernait pas la foi en ce moment-là. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. » Alors, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, ça s'est vérifié, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Retenez cette proposition. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Je ne sais pas si c'est une alerte au tsunami, comme on l'a connue dans le Pacifique et jusqu'en Méditerranée, même si ça n'a pas trop dégénéré. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Ce n'est pas qu'une question de la terre. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire, et quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. La question sur ces événements de la fin et sur la tribulation et les prophéties de Daniel et d'autres passages que l'on peut mettre en concordance suscite des controverses sur est-ce que les chrétiens vont subir la tribulation. Je vois une tête dans l'assemblée qui dit non. Mon père était plutôt de ceux qui croyaient que l'Église sera enlevée avant, et c'est plutôt une théorie qui est venue avec Darby. Mais tous ne sont pas convaincus de cela parmi les théologiens. Et Egbert, lorsqu'il parlait avec mon père, était en confrontation, parce qu'Egbert disait « Non, les chrétiens ne vont pas échapper à toutes les tribulations ». Puis il leur dit une parabole, « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et vous verrez le dernier texte que nous lirons ensemble ce matin dans l'Apocalypse fera état de cette fin et de cette nouvelle perspective que Dieu a préparée d'avance. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Je disais en toute introduction que nous sommes souvent bien préoccupés par nous-mêmes et par tant de choses que nous devons assumer tout naturellement dans une existence humaine, travailler, gérer un foyer, une famille. Et peut-être que ça ne nous préoccupe guère, ce qui va se passer. Restez donc en éveil et priez en tout temps. Et c'est étrange de voir que peut-être la prière est souvent délaissée, parce que peut-être on ne sait pas trop pourquoi prier. Et Jésus a enseigné pourtant à ses disciples comment prier. Et peut-être que c'est notre motivation, notre intérêt pour ces choses qui doit être renouvelé. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Fin de lecture de Luc 21, nous étions au verset 36. Sommes-nous dans les temps difficiles annoncés ? Bien des contrées connaissent des temps déjà très difficiles, sans parler de ces contextes de persécution de chrétiens qui prennent de l'ampleur. Le monde continue pourtant de tourner, mais bien des indicateurs sont au rouge. Les uns plus que les autres sentent la difficulté économique actuelle, mais tous comprennent la fragilité du moment. La prudence s'impose dans nos choix de vie, dans nos orientations. La prudence s'impose. Un milliardaire, j'ai lu ça cette semaine, qui possède, ce n'est pas le plus connu, mais il possède 148 milliards de dollars, a investi une bonne partie de sa fortune en bitcoin et en or. Pourquoi ? Pour se prémunir d'un krach boursier. Peut-être que nous devons réfléchir à nos petits investissements. Il n'y a pas de millionnaires, je pense, parmi nous, même pas milliardaires certainement. Mais il faut que nous soyons prudents aussi dans la manière dont nous gérons les choses dans un monde fragile à bien des égards. On déclare volontiers que les temps changent et que nous changeons avec eux. Et le problème est aussi lié à l'éthique de cette évolution historique. L'Ancien Testament parle déjà de ces changements. Le prophète Daniel déclare que l'Antichrist ne se contentera pas de proférer des paroles contre le Très-Haut, mais qu'il formera aussi le dessein de changer les temps et les lois, Daniel 7, 25. Remarquons que dans nos pays occidentaux aussi, bien des lois ont changé, et pas dans le sens de ce que nous croyons et de ce que nous professons comme foi. Dans le Nouveau Testament, Paul annonce aux Thessaloniciens que l'Antichrist sera l'homme de l'iniquité, l'impie, et qu'il existe un développement et une évolution de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité est, écrit-il, déjà à l'œuvre, et dans les derniers jours, l'impie sera manifesté. 2 Thessaloniciens 2, 3, 5. Et les versets suivants. Dans l'Épître à Timothée, il décrit ces temps à venir dont parle le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1er. Qui seront remplis d'embûches où les hommes seront... Alors, regardez autour de vous. Les hommes seront épris d'eux-mêmes. Les selfies, les profils sur les réseaux sociaux, épris d'eux-mêmes, vaniteux, arrogants, médisants, durs, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, il y en a beaucoup, traîtres, enflés d'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Le plaisir n'est pas seulement le plaisir d'ordre sexuel, mais on sait que cela prend une grande ampleur dans la société. Gardant l'apparence de la piété, on fait belle figure, mais ayant renié ce qui en fait la force. Révoltés contre leurs parents, ingrats, profanes. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Le déclin moral, la croissance du mal, il semble que ces manifestations effrayantes ne nous soient pas inconnues, n'est-ce pas, et qu'elles appartiennent à tous les temps. La vantardise, la profanation, la rébellion contre les parents, etc., ont toujours existé. Cependant, Paul parle des derniers jours avec un accent spécial. Il semble souligner le fait qu'il y a un déclin de la condition morale de l'homme. De même que la croissance du mal est possible chez les individus dont les hommes ont émoussé la conscience. De même, une évolution, une maturation du mal est possible dans une nation ou dans le monde entier. C'est pourquoi il est nécessaire que nous connaissions les conditions morales de notre époque. Souvent, on se désole de voir ceci ou cela, mais il faut considérer que c'est comme une lame de fond. C'est quelque chose qui balaye un peu ce qui était d'avant et qui n'était pas nécessairement parfait, mais qui aujourd'hui s'aggrave. On a gravement dévalué la morale et on a fait du péché une aventure intéressante. Alors on peut saper les idées morales en niant de façon ostensible, grossière, les commandements de Dieu, en proclamant aussi effrontément une liberté sans frein. Et si vous écoutez bien ce qui se passe dans la société, vous verrez que c'est un leitmotiv. Je suis libre. Je ne suis pas seulement libre comme les hippies l'ont décrété dans les années 70, mais aujourd'hui, je suis libre de tout et n'importe quoi. C'est l'inclusion par cette liberté de tous. C'est un mensonge. Cette liberté est un mensonge. Mais il peut aussi exister des formes raffinées du mal qui semblent se faire l'apôtre du beau et du bien en dehors de tout ordre ou contrainte morale. Pensons à toutes les déviances présentées comme la véritable liberté et tout ordre moral comme un obstacle au véritable épanouissement de l'individu. C'est aussi quelque chose que nous retrouvons aujourd'hui beaucoup dans la société. Alors il avertit aussi, dans 2 Corinthiens 10, versets 13 à 15, contre les faux docteurs, ceux qui se font passer pour de vrais disciples et qui trompent aussi dans les églises. En 1979, ça ne parlera pas aux plus jeunes parmi nous, mais la comédie musicale Starmania de Luc Plamondon et de Michel Berger focalisait déjà sur la terreur des bandes dans la ville. La chanson « Quand on arrive en ville », peut-être certains l'ont entendue dans le passé, c'est la terreur sur les boulevards. On prend peur quand on voit le sang sur nos lames de rasoir. Tout ça n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on tire chaque semaine à Bruxelles, et encore cette semaine, il y a eu 249 fusillades et 14 morts depuis 2023. La présidente d'Europol, que j'ai croisée parfois dans le bâtiment de la police fédérale ici à Bruxelles, elle est maintenant depuis plusieurs années à Europol, elle fait état d'enfants de 10 ans qui sont recrutés pour assassiner pour une somme de 20 000 euros. C'était dans un énorme dossier de trafic de drogue qui a été traité par les polices européennes et par Europol, bien sûr. Et le procureur général à Bruxelles, c'est depuis le début de cet été, il est en surveillance sécuritaire rapprochée depuis quelques semaines, compte tenu des menaces sur sa vie en rapport avec sa fonction. Il existe effectivement un ensauvagement de la société, en un point douté. Tout ceci contraste sans aucun doute avec le caractère encore paisible de nos existences et de nos vies d'Église. Et pourtant, nous ne vivons pas hors du monde, comme c'est étrange. Déjà, les psaumes nous confrontent à des réalités terribles, comme au psaume 94, tout en donnant des perspectives à celui qui écoute Dieu. Psaume 94, à partir du verset 3. Prenez psaume 94. Verset 3. « Jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, et ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. » Faites attention, idiot, verset 8. Homme stupide, quand ferez-vous preuve de bon sens ? Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas ? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont sans valeur. Verset 12. Heureux l'homme que tu corriges. « Éternel, et que tu enseignes par ta loi, la loi de Dieu, l'ordre moral. » Verset 13, « Pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour le méchant. » L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste, et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. « Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal ? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice ? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. » C'est assez tellement terrible que le psalmiste dit « Mais je vais me retirer dans un coin tranquille, je vais rester dans le silence. » Quand je dis « Mon pied est en train de glisser », ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Comme c'est étonnant, n'est-ce pas ? Qu'au travers de tout cela, les consolations de Dieu rendent la joie. Comment pourrais-tu être le complice de mauvais juges qui commettent des crimes au mépris de la loi ? Ils se liguent contre le juste, ils condamnent l'innocent, mais l'Éternel est ma forteresse. « Mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Il fera retomber leurs crimes sur eux. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. » Nous retrouvons ici les actes d'hommes méchants, mais aussi les jugements iniques dans le chef de la justice des hommes. C'est révoltant, n'est-ce pas, pour le psalmiste, mais d'une manière extraordinaire, la consolation de Dieu l'apaise et le réjouit. Charles Spurgeon disait « C'est à force de persévérance que l'escargot entra dans l'arche. » Belle image. Le psalmiste considère les épreuves dont les hommes méchants sont la cause, tout en mettant en corrélation le secours de l'Éternel, verset 17. « Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Et quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Au verset 22, il renouvelle sa confiance à son Dieu, sa forteresse, son rocher où il trouve refuge. Peut-être que tout cela nous ennuie, mais ce n'est pas si éloigné de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se produire dans les temps à venir. Je ne sais pas si nous avons toujours cette grandeur d'âme et cette force de caractère spirituel pour mettre cela en œuvre comme le psalmiste. Hébreux 12, 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ce n'est pas la course de Léon Marchand, n'est-ce pas, vers la médaille d'or ou la victoire, je ne sais pas, ce sont les championnats du monde aujourd'hui de natation. Alors ce n'est pas si simple pour Léon Marchand non plus, parce que c'est le fruit d'un grand travail. Comme pour les grands joueurs de tennis, les efforts, nous ne les voyons pas. Nous voyons l'effort d'un bon match, mais ce qui a derrière, et souvent nous l'oublions en tant que chrétiens, que la course n'est pas si facile et qu'elle ressemble parfois à cette épreuve qui nous est exposée dans le Nouveau Testament. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Jésus, en échange de la joie, dit le texte, qui lui était réservée, a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Quelles sont les circonstances de notre vie aujourd'hui ? Le psaume que nous avons lu parle de situations graves et accablantes, même terribles, mais celles-ci sont sans doute assez éloignées de notre quotidien. Peut-être est-ce la maladie ou d'autres épreuves qui nous touchent. Peut-être une tristesse particulière qui nous accable et qui altère notre joie. La vie avec Dieu n'est pas théorique. Elle est essentiellement pratique. La persévérance et la patience sont des caractères chrétiens qui montrent la maturité spirituelle. Et dans ces circonstances, supporter est une chose, mais garder la joie en est une autre. Le théologien Warren Wiersbe écrit que nous employons souvent indistinctement les mots joie et bonheur, alors que nous devrions les différencier. Le bonheur dépend souvent des événements, et la situation est encourageante et c'est les gens aimables autour de nous, alors nous sommes heureux. Mais la joie ne dépend ni des circonstances ni des gens. Seul l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous peut nous donner la joie au milieu des circonstances et face aux personnes éprouvantes. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'Esprit. L'Esprit crée en nous cette joie et la joie que donne la communion de l'Esprit-Saint. Romains 14, 17, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » L'image que nous avons de cette première proposition, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, doit nous impacter parce que nous pensons souvent que ce sont les beuveries, les excès, les choses que nous voyons peut-être dans le monde, les cercles d'étudiants qui dépassent toutes les normes, etc. Mais ce que dit le passage, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. Ce n'est même pas le manger et le boire, même dans la norme. Mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie ne vient pas par ces choses et de ces choses, même si nous pouvons y éprouver un certain plaisir aussi tout naturellement au plan humain. Je livre encore cet extrait du même auteur parce que je crois que la distance par rapport à mon propos peut aider certains. le théologien que je viens de citer. « À plusieurs reprises, dans ma vie, écrit-il, toutes les circonstances semblaient annoncer des difficultés et même l'échec. Pourtant, mon cœur était rempli d'une joie spirituelle qui ne pouvait venir que de Dieu. Malheureusement, en d'autres occasions, bien trop nombreuses, je l'avoue, je me suis laissé abattre par les difficultés et j'ai perdu à la fois la victoire et la joie. Comme on dit au cinéma, toute ressemblance avec des personnes connues est tout à fait fortuite et involontaire. Si nous revenons à la situation bien perturbée et tendue de notre monde, je signale au passage que Mark Zuckerberg, président de Meta, et d'autres milliardaires se font construire actuellement à Hawaï d'énormes propriétés avec des bunkers que l'on pourrait qualifier d'apocalyptiques. Se mettre à l'abri, c'est peut-être le coin du silence du psalmiste, se mettre à l'abri du monde mauvais et dangereux, ce n'est pas à la portée de chacun. Mais n'est-ce pas illusoire face à ce que la parole de Dieu annonce? Au psaume 101, vous pouvez le prendre, le psaume 101, il n'est pas très long. Psaume 101, David, considérant son règne à venir, c'est le contexte, détaille son programme de gouvernement dont pourraient s'inspirer bien des dirigeants de notre monde. Et je le lis dans la version Semeur. Psaume 101, verset 1er, psaume de David. « Je veux chanter l'amour et la justice, je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles, elles n'auront sur moi aucune prise. » Le cœur faux restera loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Celui qui calomnie son compagnon, médisant en secret, je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Et mes yeux se porteront sur les fidèles du pays et je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui se sert de fraude. Et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Je fermerai la bouche tous les matins aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui fondent le mal. Quel programme ! Quel programme ! Les versets 1 à 4 le concernent lui en tant que roi. Et les versets 5 à 6, c'est ce qu'il exigera de ceux qui l'entourent. On parle dans les commentaires que David a rassemblé 30 000 hommes de dignitaires du pays dans cette perspective de son règne qui vient. Est-ce que David a pu accomplir cette perfection? Non, si belle soit-elle. Un peu comme ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 avec l'apôtre Paul qui parle dans la définition des différents volets de l'amour. Jamais Paul n'a vu ça parfaitement chez les Corinthiens, nous le savons bien. Et David n'a pas pu être l'homme parfait. Nous devons reconnaître que ce psaume nous parle d'une perfection qui dépasse David et qui nous parle du Seigneur qui prendra autorité sur toute chose le temps venu. David a certes fait des efforts pour se conformer au désir de son Dieu, mais son règne a connu tant d'imperfections. David, voyant par la foi le roi qui va régner en justice, exprime le désir des fidèles du peuple. « Quand viendras-tu à moi ? » Il n'y a pas de place pour le fraudeur, ni pour le menteur auprès de Dieu. La droiture caractérise ceux qui le suivent. 1 Jean 2,6 dit « Marchez comme lui-même a marché ». Des hommes font toutefois des efforts pour leur activité, comme ce qui se vit en France dans les compagnons du devoir. Ça nous paraît peut-être une forme de secte qui s'approche un peu par certains aspects de la franc-maçonnerie, mais en tout cas, les compagnons du devoir en France, ce sont ceux qui réparent les cathédrales, qui ont travaillé dans la restauration aussi de la cathédrale de Paris, qui interviennent dans le maintien du patrimoine historique et architectural de la France, et qui font aussi des stages en dehors de la France. Ils tendent à maintenir une perfection dans leur métier, qui sont essentiellement des professions du bâtiment. Ça existe aussi dans les métiers de bouche. Mais je cite quand même leur devise, parce que c'est un peu autre chose. Apprendre, se perfectionner sans cesse dans son métier et dans son comportement. Favoriser la qualité des rapports humains, le respect de soi et des autres. Progresser, être honnête, engagé et donner le meilleur de soi-même. Rêver, cultiver l'art, la spiritualité et transmettre avec générosité. Dépasser ses intérêts personnels pour se mettre au service des autres. Participer activement à la vie de la communauté en y trouvant sa place. Quelle excellence, quelle rigueur. Nous pourrions utilement nous en inspirer, parce que nous trouvons dans la Bible ces éléments. Loin de moi de défendre l'idée que l'homme seul peut toucher à cette forme de perfection qui n'apporte rien en ce qui concerne le salut parfait en Christ, mais fait réfléchir dans notre comportement à trouver des failles auxquelles la parole de Dieu elle-même nous appelle à trouver remède. L'apôtre Paul ne prie-t-il pas pour les Corinthiens en ce sens ? Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 2 Corinthiens 13, la deuxième partie du verset 9. Que ne sommes-nous pas légers avec ces choses ? Bof, oui, j'ai tant de choses à faire. Ce n'est pas si important. 2 Corinthiens 4, verset 4, nous parle d'un évangile encore voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Éphésiens 1, 21 nous dit que Dieu a fait asseoir Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. En quelque sorte, les croyants sont déjà entrés dans ce royaume par la réalité de l'Esprit-Saint. 1 Corinthiens 4, 20 nous dit, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Peut-être qu'on la cherche souvent, cette puissance. Colossiens 1, 11, 14. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et puis le verset 13, que peut-être nous oublions ce sens-là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés, et je répète, délivrés de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous ? Nous identifions peut-être assez mal le fait qu'il y a des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, mais qui n'est plus notre lot. Éphésiens 2:2 nous parle clairement de la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Dans la première aux Corinthiens, et je ne vous ferai pas l'injure de répéter en détail ce que nous avons étudié pendant des mois, Paul parle des chefs de ce monde, des philosophes de ce monde, des critères de ce monde qui sont une folie devant Dieu. De plus, Satan se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14 et 15, parfois même dans l'Église, et toujours dans le monde. Et il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. C'est ce maître que les hommes servent, même s'ils pensent ne servir que leurs propres intérêts. Tous les hommes ne sont pas méchants, ne nous veulent pas nécessairement du mal, mais ils ne sont pas au Seigneur. Et ils servent leurs intérêts, ceux de leur argent ou de quelle autre divinité parfois. Dans le temps actuel, ils gardent le pouvoir partout où des hommes et des femmes ne se sont pas tournés vers le Christ. Le prince des ténèbres est le seul Dieu qu'ils connaissent, non pas peut-être en tant que diable, en tant que Satan, mais en tant que, finalement, autorité qui conditionne un peu leur comportement. Galates 3, 22 dit « Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Et puis, la fin du psaume 101 ouvre une perspective de justice parfaite et d'autorité de Dieu. Et je termine par cela. Apocalypse 21. Prenez ce passage, Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Et puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Parole d'espoir pour terminer cette prédication. Présence de Dieu pour son peuple, confirmation, malgré tout, de larmes et de souffrances dans le monde présent, mais aussi de libération de la mort et de douleur qui appartiennent à l'ancien monde dans lequel nous sommes. Parole de jugement sur le monde perdu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais aussi parole d'espérance pour celui qui vient s'abreuver à la source de l'eau de la vie. L'une des principales tâches de l'Église de Jésus-Christ doit être de proclamer la richesse de la loi de Dieu et de l'obéissance à cette loi. Si l'obéissance n'est pas une joie pour nous, si nous ne prêchons pas sa richesse, comment le monde croirait-il et comment obéirait-il ? L'Église est placée dans le monde comme un témoin de l'Évangile. Et sa mission n'est pas de discuter, comme si Dieu se trouvait au terme ultime d'un raisonnement humain. Non, elle est le témoin de l'Évangile et de la loi de la liberté. Et le témoignage de l'Évangile est incomplet s'il ne proclame pas que la loi est sainte et bonne. Sous ce rapport, l'Église doit être une pierre d'achoppement pour le monde, parce qu'elle participe à la folie de Dieu, qui est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25, nous connaissons ce passage, n'est-ce pas ? De ce point de vue, l'Église proclame que l'Évangile n'a rien d'anti-humain, mais qu'une humanité vraie ne trouve sa sécurité que sous la protection de la loi de Dieu. Face à cette tâche, nous nous sentons souvent bien démunis, bien petits. Mais est-ce bien cela que nous devons ressentir ? Proclamer la liberté en Christ, la délivrance du fardeau du péché par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, c'est bien ce message qui semble aujourd'hui plus que jamais décalé, mais qui est le seul chemin du salut et qui le restera, quoi qu'il arrive.